voilà.
Qu'est-ce que tu fais, Guillaume ?
Mais c'est quoi ce truc ?
Ça, c'est un minuteur, ça.
Bah oui.
Ouais, non, mais je vois bien, mais enfin, pourquoi ?
Eh ben, parce que j'ai écouté l'émission de vendredi, les chroniques, qu'est-ce qu'on a dit ?
3 minutes 30 ouais. pour tout le monde, sauf pour toi, 4:30.
Oui, ouais, parce que moi, je suis brillant, d'accord ?
Oui, enfin, viens-en au fait.
Thomas Bideguin, vendredi, 4:45.
Oui, mais tu sais...
Oui, oui, je sais qu'il perd un temps considérable en poésie. Ouais.
Revenons à nos petits moutons d'histoire, dont la laine, amoureusement tondue par les grands de ce monde, servira, ouais, gageons-le, cette année encore, à tricoter la grande écharpe de ces récits qui nous réchauffent et que... On se plaît à nous enrouler autour du cou, telle la corde, le pendu.
Oui, c'est pompeux, c'est
Ah, ça va pour une minute.
Oui. Isabelle Sorrente, 5:42.
Oh. Ah, oula, oui.
Mais attention, on a appris des trucs.
Les champignons qu'il y a autour des arbres transmettent des informations d'un arbre à l'autre.
Oui, on a surtout appris qu'elle en fumait de la toute bonne.
Il n'y a que Juliette qui a presque respecté. 3:40, elle a terminé là-dessus.
Je crois toujours en l'amour. Merci, oui, bisous, merci.
Bah, elle croit toujours, ouais, à l'amour, quoi.
Oui, mais est-ce que c'est réciproque? On ne sait pas.
Mais il a raison, il faut être vigilant sur le timing.
Ben oui.
Et le débrief, c'est combien de temps?
C'est une... Ah bah voilà. Voilà. Ouais, voilà.
Une 30. Pile, parfait. Allez, c'est plié, c'est parti. Bonjour la France Inter, bonjour auditeurs du Nouveau Monde. Vous vivez dans une Startup Nation? Eh bien, vous écoutez une Startup Emission. Et voici les trois informations que nous avons choisies lors d'un séminaire de team building. C'est aujourd'hui qu'est posée la première pierre du mur anti-balles qui encadrera bientôt la Tour Eiffel. Et on ne saluera jamais assez l'apport du terrorisme à la décoration urbaine. Cette fois, il s'agit d'une vitre de 3 mètres de haut pour nous rappeler que l'État nous protège.
Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
L'écran publicitaire entre dans les théâtres privés à partir du mois de novembre. 17 salles diffuseront 4 minutes de pub sur grand écran. Qu'en pensent les spectateurs ? Oui, les invitations, on a compris. L'ancêtre des sites de rencontres résiste encore. Ce sont les petites annonces du chasseur français. Et vu leur succès, ça n'est pas encore complètement désuet.
Vous êtes très belle en ce moment. Vous me faites bander,
Marie. Alex Vizorek.
C'était pas moi.
Je vais nous épargner une transition. Bonjour.
Oh, oui, elle est faite.
Bonjour à tous. Et aujourd'hui, belle équipe autour de la table pour parler grand théâtre. À 17h20, dans Molière, un personnage s'appelle Hippolyte. C'est une demoiselle et c'est dans L'étourdi ou Les contretemps. Ça lui va bien. Ça met en valeur sa part de féminité, sa propension à être dans les nuages. C'est Hippolyte Girardot. Bonjour.
Bonjour. Écoutez, la production est tellement longue que je ne dirai rien à la chronique.
C'est parce que vous ne savez pas encore de quoi vous allez nous parler. À 17h30, celui qui passe sa vie à leur parler pour prouver aux Français qu'ils ne sont pas des malades imaginaires, mais qu'ils sont bien atteints. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je suis évidemment allé hier à la fête de l'humain, vous me croyez pas ?
Qu'est-ce que vous vendez de beau ?
Le journal Le Bolchevique.
Alors, j'y étais ou pas ? Ok.
Et à 17h40, à l'école des fans, elle serait... Enfin, à l'école des femmes, bien évidemment. Ouais. Sinon, ça marche pas.
Bonjour, elle comment tu t'appelles ?
Professeure de détricotage, celle qui détricote la littérature. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Mais c'est fou, Alex, pour une fois, vous tombez juste.
Eh ben, écoutez, ça
je
m'arrive.
Je vais détricoter un classique.
Ah bah très bien, lequel ? Peut-être celui de notre invité ?
Eh oui, car je me tourne vers celle qui va disrupter avec nous. Vous entrez à la Comédie Française en 68, et l'année suivante, vous débutez au cinéma dans Le Grand Amour de Pierre Etex. On vous voit ensuite dans Borsalino de Jacques Deray ou dans Le Casse d'Henri Verneuil. Puis vous rencontrez Jean-Yann et vous tournez dans ses films Moyen à vouloir des sous ou Les Chinois à Paris. Au théâtre, vous jouez autant Ruy Blas à la Comédie Française que plus tard Joyeuse Pâques de et avec Jean Poiret. Vous avez aussi beaucoup tourné pour la télévision, dont une saga de l'été dont on se souvient tous qui a fait un carton, Les Grandes Marées de Jean Sagols. Vous êtes aussi écrivain.
Je l'ai vu ça.
Vous êtes aussi écrivain, auteur de 12 romans. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
J'allais dire Véronique Jeannot. Non, je suis Nicole Cadra.
Véronique Jeannot est avec nous.
Par Jupiter, Charline Van Necker, Alex Vizorek... sur France Inter.
Bienvenue Nicole Calfan.
Bonjour.
Bonjour. On peut vous voir au théâtre, et quel grand théâtre, vous jouez dans Le Tartuffe, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, mise en scène de Michel Faux, avec Michel Bouquet, Michel Faux, Juliette Carré, Christine Morillo, entre autres, on va tous les citer tout à l'heure, Juliette Arnaud était à la première.
Oui, je savais pas que c'était la première.
Nous non plus.
J'ai eu peur pour vous. Oui. Alors, Nicole Calfon, donc, là, vous jouez avec Michel Bouquet et Michel Faux. Vous êtes mis en scène par Michel Faux. Michel Faux et Michel Bouquet sont eux-mêmes un ancien couple élève-professeur. En gros, vous êtes au top. Hein,
ah oui, je suis très, très gâtée. Voilà. Puis, il y a une passation de pouvoir incroyable parce que moi, j'ai été engagée à la Comédie Française pour jouer Marianne de Tartuffe, la jeune première, et maintenant, je joue Elmire. Donc, c'est quand même magnifique. Je jouais avec Robert Hirsch et Jacques Charon, et j'avais déjà et c'est Claude Winter qui jouait Elmire, et donc c'était resté dans mon cœur et dans ma mémoire.
Voilà. Oui, c'est assez rare ça en fait, de pouvoir jouer plusieurs rôles dans la même pièce.
C'est l'âge.
Et le bénéfice, il faut bien qu'il y en ait.
Bénéfice de l'âge.
Et comment on trouve sa place? On se posait la question avec Charline, comment on trouve sa place entre Michel Bouquet et Michel Faux? Et Charline ajoutait, Michel Bouquet... Adjuvant ou boulet?
Nous, d'être coincé entre le maître et celui qui représente la relève.
On me coince jamais. Je suis jamais là où on croit que je vais être. Donc déjà, c'est facile pour moi. Michel Faux, c'est une très très grande histoire d'amour, puisqu'il avait la couverture de lui où j'étais photographiée par Mireille Darc et depuis l'âge de 13 ans. Il avait cette photo dans ses différentes chambres.
Photo qui date de 92, je pense. Oui.
Voilà. Maintenant, cette photo est dans sa loge.
C'est pas du tout gênant.
Absolument pas, j'assume très bien. Donc, Michel Faux, c'est une très, très grande histoire d'amour qui est partie de lui et qu'il m'a ensuite communiqué, puisque je ne savais pas que Michel Faux m'aimait. Et il a donc chez lui tous mes programmes, tous mes bouquins, et nous avons fait une sorte de musée, Nicole Calfon, chez lui. Il sera mon exécuteur testamentaire. Son ami n'en peut plus, d'ailleurs. Et donc, c'est une grande histoire. Michel Bouquet, je l'avais croisé dans Borsalino, jouait Maître Rinaldi, mais je l'avais jamais vu. Et pour répondre à votre question, enfin, je ne suis pas coincée, je suis très heureuse.
Donc, aucun problème de place. Mais c'est ce qu'on ressent quand on voit que vous n'avez absolument aucun problème de place.
D'abord, j'ai pas beaucoup d'égo. Contrairement à beaucoup d'acteurs et d'actrices, je ne sais pas trop ce que c'est,
ils
ça ne m'intéresse
tous
pas.
Francis Huster,
oui, mais
il
ne le pense pas. Moi, je le pense. Moi, je n'aime pas beaucoup les actrices, j'aime les femmes qui sont les actrices. Déjà, une grande différence pour moi. Et quand on est dirigé par un Michel Faux, il n'y a pas d'égo, puisqu'on est tous très bien servis.
Donc, par Molière, déjà.
Premièrement par Molière, par Tartuffe, et par un immense metteur en scène, et par des acteurs très très, très, très humbles, et je citerai en premier Michel Bouquet.
Moi, je vous avais vu dans la pièce de Laurent Baffy avec Claude Brasseur et Daniel Russo.
Jacques Daniel.
Comment on passe de ce genre de rôle-là à Molière classique absolu? Est-ce qu'on travaille de la même façon? Est-ce qu'on a le même plaisir? Est-ce que, en tant que comédien, on doit se retirer par rapport au texte ou plus cabotiner dans un registre ou dans un autre?
Quand je vous ai dit que j'étais jamais là où on m'attendait, je vous le prouve. Je suis quand même passée des monologues du vagin à la pièce de Baffy, un point c'est tout. Déjà, c'était un. Là, je suis passée de Jacques Daniel, la pièce de Baffy avec Brasseur et Russo, à Tartuffe.
Et
puis
vous
après...
jouez au cabaret du Chat qui pète.
Bien sûr. Mais surtout, je suis passée au film d'Alex Lutz qui va être un bijou.
Aha.
Où là, on n'a pas de texte du tout. Et on est totalement en improvisation. Et le film sortira au printemps. D'accord. Donc oui, Tartuffe, Alex Lutz, ça je suis très fière.
Et on vous a vu aussi dans La Vérité si je mens, c'est pour dire si c'est éclectique vos choix. Ouais. Juliette, encore une question.
Oui, il y a une chose qui m'a, j'ai l'impression que c'est grâce à la mise en scène de Michel Faux que je m'en suis aperçue, parce que j'ai vu plusieurs fois Tartuffe. Et c'est la première fois où je me suis dit, bon Dieu, mais dans cette pièce, les deux seuls personnages vraiment intelligents, ce sont deux femmes. Elmire, que vous incarnez, et Dorine. C'est les deux seules qui luttent à peu près efficacement contre Tartuffe. Est-ce que vous en aviez conscience avant de commencer le rôle? Est-ce que Michel Faux a appuyé là-dessus?
Je n'ai aucune conscience de rien quand je joue.
C'est une grande
alors
qualité
aucune.
D'actrice.
Je suis tellement appliquée, je ne crois qu'au travail. Je n'intellectualise pas du tout les rôles. Je ne me suis pas rendu compte de l'intelligence d'Elmire. J'ai simplement accepté avec bonheur le fait que Michel Faux en fasse une madone. C'est une sainte, cette femme. Il m'a absolument magnifiée par le costume de Christian Lacroix. Je suis une sorte, comme je suis russe et polonaise, ça m'a plu parce que je suis comme la Théodora des icônes. Maintenant, vous dire qu'elle est intelligente, je suis incapable de dire d'un personnage qu'il est intelligent ou pas. Dorine, certes, me semble très intelligente.
Elle est maligne, Dorine. Hein
ouais. Elle est maligne, mais moi, il me semble que Elmire est particulièrement intelligente et elle fait preuve de modération. C'est la seule qui dit aux hommes, oui, calmez-vous,
je vais
ça
le jouer
ne sert
différemment
à rien
demain.
Non, surtout pas.
Oh, si, si, je sais comment je vais le jouer demain.
Eh bien, eh bien, vous avez de la chance. Vous avez de la chance si vous allez le voir demain, donc, le Tartuffe, au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est jusqu'au 31 décembre dans la mise en scène de Michel Faux avec Michel Bouquet, Michel Faux. On va tous les citer avec Juliette Carré, Christine Murillo, Justine Bachelet, Georges Bécaud qui fut le professeur.
Mais oui.
Mais oui, de Guillaume Meurice. D'Alex Vizorek,
bien Florent, et nous on est ici.
Qui joue Cléante, Bruno Blairet, Dimitri Vio, Aurélien Gabrielli, Alexandre Ruby.
Magnifique, ils sont magnifiques.
Make it. Très très bien. Par Jupiter, jusqu'à 18h, avec Nicole Calfan, à venir Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice. Likewise, Sunday Shining, vous êtes sur France Inter, par Jupiter, en compagnie de Nicole Calfan, qui joue dans Le Tartuffe, au théâtre de la Porte Saint-Martin, avec Michel Bouquet et Michel Faux, dans une mise en scène de Michel Faux. Et pour entourer Nicole Calfan, Alex.
C'est la dame des grandes marées. Mais oui, mais oui, j'étais à fond. Il y a Juliette Arnaud.
Tu sais qu'on a, on a été battu par Brigitte Fosset de l'autre côté.
Château des Oliviers, moi j'étais avec vous, hein, ça je peux vous dire.
C'est vrai.
Ouais, rien n'affiche des Oliviers. Parce que moi, j'ai
pas bossé pendant 3 ans après. Hein. Ah. C'est gentil, mais moi, après, pendant 3 ans, j'étais tricarde sur la une parce qu'on a fait moins que le château des Oliviers. Hein. Ça,
on va inviter Brigitte Fossé, on va aller.
D'accord.
Et hop, on va serrer la vis. Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot, Juliette Arnault seront d'accord.
Voilà. Et le journal qui n'arrive jamais à l'heure.
Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose.
Le journal de presque 17h17.
Pensez printemps, mes amis.
Et on commence par les titres, mes amis.
Stéphane Bern a été nommé Monsieur Patrimoine de l'Élysée.
Oui, c'est logique, on sait que Stéphane Bern adore passer du temps dans les palais.
Mmh, le couscous gate, c'est la preuve que Florian Philippot n'a rien compris au FN.
Mais oui, les militants de ce parti ne mangent pas arabe, ils les vomissent.
Les brèves.
Et évidemment, les brèves dans le journal, c'est comme les pois chiches dans le couscous.
Ah oui.
Oui.
Donc le truc le plus difficile à digérer, quoi.
En effet. Mais le meilleur.
Les journées du patrimoine, oui. Elles étaient placées cette année sous le thème de la jeunesse.
Oui, on a vu le Sénat recevoir le plus grand nombre de visiteurs. Il n'y a pas de logique.
Et oui, c'est patrimoine toujours. Oui. Stéphane Bern oui. vient d'être nommé Monsieur Patrimoine par Emmanuel
oui,
Macron.
Au niveau patrimoine, il aurait pu mettre Richard Ferrand, qui s'y connaît bien lui aussi.
Et Stéphane Bern sera chargé de lister et de sauver les monuments en péril.
On l'écoute.
Il se trouve que voilà, je crois que le chef de l'État s'intéresse de beaucoup aux vieilles pierres. Sans doute parce qu'il est jeune lui-même.
Des vieilles pierres. Alors, le premier qui fait une blague sur Brigitte, c'est...
Non,
j'ai une autre blague. Ah ben, j'avais pas du tout une blague sur Brigitte, j'ai une autre blague. Il aime les vieilles pierres, c'est vrai, il aime les pierres gataz. J'avais une autre blague.
Très bien, majorité toujours. Les députés macronistes sont réunis en séminaire aujourd'hui et demain.
Mais oui, comme tout bon séminariste, on imagine qu'ils vont se consacrer à bien apprendre la parole de Dieu.
Passons à cette terrible information.
Oui, oui.
Critiqué pour avoir mangé un couscous à Strasbourg, Florian Philippot a dénoncé les crétines et les crétins du FN.
Mais oui, d'habitude, le couscous, ça remplit le ventre. Eh bien, il faut croire que ça ouvre aussi les yeux parfois.
À gauche, à présent, le PCF de Gentilly se fait voler les 23 000 euros de recettes de son stand à la fête de l'humain.
Comment voulez-vous que l'extrême gauche gère un pays ? N'arrive pas à organiser leur propre fête.
Dernière info politique, François Hollande s'est fait introniser dans la confrérie du melon.
Et c'est véridique. Ben oui, Jean-Luc Mélenchon s'est vexé. Il a dit c'était un truc pour moi.
International, après 51 jours de détention en Turquie, le journaliste Lou Bureau a enfin été libéré.
Mais oui, Jean-Vincent Placé s'est immédiatement manifesté. Un bureau libéré, on lui a dit non, calme-toi.
Média, ce matin, Marc Fauvel, dans le 8h, a un petit peu surestimé la vitesse du vent.
On redoute des rafales jusqu'à 200 000 km/h et des creux de 10 mètres en mer.
200 000 km/h, c'est énorme. Fake news, Fauvel, démission.
Rends l'info, média toujours. Delphine Ernotte ne veut pas de la vulgarité de Cyril Hanouna sur France Télévisions.
Mais oui, il a raison, Delphine Ernotte. Pas de ça sur le service public. Il y a une vraie tradition de poésie.
Oui, ça va, arrêtez ça, Alexandra, je pense qu'on a compris.
Non, hein. Bah, on va à la fin de la chanson.
Ouais.
Une petite pipe, ouais. Avant d'aller dormir.
Voilà, c'est Patrick Sébastien, salut.
Le service public. Allez,
deux brèves. Jusqu'à 3 ans de prison pour le docteur qui se faisait lécher les pieds. On a donc retrouvé le médecin traitant de Georges Tron.
La dernière,
Morlaix, Bretagne. Grâce à son retrait de permis, l'automobiliste a trouvé l'amour.
Oh, c'est beau.
Mais oui, les policiers de Morlaix ont reçu une carte postale les remerciant d'une Morlaix, me dit-on dans l'oreille. Attention, évidemment,
sûr.
On ne prononce pas de X, ça vaut autant pour moi. Oui, pas de X dans un nouveau couple, évidemment. Les remerciant d'une confiscation de permis. L'auteur a fait donc du covoiturage et a trouvé l'amour, comme quoi perdre des points de permis en fait gagner avec les filles.
17h25 à Bruxelles et non pas Bruxelles. Vous êtes sur France Inter,
les Morlaixans.
En compagnie de Nicole Calfan. Et voici le premier sujet qu'on va aborder avec vous. La France aussi construit un mur. Mais chez nous, c'est un mur vitré qui va entourer la tour Eiffel. 7 cm d'épaisseur pour résister à un tir de Kalachnikov. La première pierre de la vitre, et oui c'est comme ça, est posée aujourd'hui. Tout de suite, reportage et analyse.
La France, sans ambition et sans haine, est essentiellement pacifique. Mais l'expérience du passé et les menaces d'une invasion brusquée l'ont obligée à organiser sa défense. En janvier 1930, le ministre de la guerre, Maginot, fait voter les crédits nécessaires à la fortification de la frontière. Nouvelle stratégie de la guerre moderne. Les ports sont invisibles, contrastant avec ceux d'autrefois.
Les ports sont invisibles, elles sont vitrées. Nicole Calfan, c'est tout un symbole de murer la Tour Eiffel comme ça, d'une immense vitre. Est-ce que c'est le genre de sujet qui vous chiffonne un peu,
vous
c'est
vous pas dites que ça me chiffonne, ça m'intéresse pas du tout.
Mais alors, on s'est dit, Nicole, elle est passionnée de vitres. On va lui foutre un premier sujet là.
Comme dirait Chirac, ça vous en touche une sans bouger l'autre.
Mais j'aurais préféré qu'on mette un dôme sur la France, comme dans les films que je regarde sur Netflix.
Oui.
Voilà, c'était plus amusant. Maintenant,
ah
ça
oui,
va
qu'est-ce que vous avez vu d'ailleurs comme film là-dessus?
Je regarde tout, moi, alors. Bon.
Mais... Un peu comme à Center Park, vivre sous une bulle.
Oui, mais ça aurait été plus amusant, je trouve plus intéressant. Parce que là, vraiment, si ça va désengorger quelques policiers, ça va leur permettre de surveiller ailleurs. Ça, c'est bien pour eux. Mais franchement, voilà quoi. Ouais. Il n'y a pas une autre question.
Non, mais c'est-à-dire qu'on a pas eu trois quarts d'heure là-dessus. Donc
Alors allez-y, je vous écoute. Non, mais
c'est-à-dire ce qui était provisoire.
Je vous écoute.
Alors je reste à une question, puis si on s'en fout, non, oui. On s'en fout. Mais les grilles provisoires qu'il y avait autour de la Tour Eiffel, elles deviennent pérennes. C'est un peu comme l'état d'urgence qui devient pérenne. C'est pas le truc qui vous fout
ça
les
vous
boules.
Ça vous intéresse, vous, ce que vous êtes en train de dire.
Ben oui, moi, ça m'ennuie, cet état d'urgence qui se prolonge. Tout ce qui était provisoire doit devenir...
Vous trouvez pas ça anxiogène? On essaie de vous aider, Nicole.
Non, j'ai pas de réponse, j'aurais préféré une autre question.
Mais dites que vous êtes d'accord avec nous, c'est bon?
Je suis d'accord avec tout ce que vous dites.
Mais on pense quoi, nous? On préfère les militaires ou les vitres?
On préfère rien qui est anxiogène et qui de toute façon
mais de
ne sert
façon,
à rien.
De toute façon, il faudra bien qu'il y ait des militaires pour surveiller les vitres.
On a notre spécialiste Véranda au téléphone.
Justement, ce qu'elle fait, la vitre fait 7 cm d'épaisseur, oui. C'est justement pour qu'il n'y ait pas d'éclat.
Vous imaginez les pauvres pigeons qui vont venir s'écraser.
Les
traces de doigts.
Qui va nettoyer cette vitre?
C'est de l'emploi.
Ça crée de l'emploi.
Exactement. Pardon, mais tout ça, c'est des angles pour les journalistes du Parisien aujourd'hui en France demain. Hein. Demain, il y aura un encart, les pigeons. Nicole Calfan déclare et les traces de doigts. Mais bien sûr. Les passons avec Pauline Girardot.
Voyons le sujet. Bon, alors,
Bon, on a le droit. Hein.
La semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, El Niño m'avait écrit, vous savez.
On se souvient de toutes vos chroniques.
Bien ok, sûr, non, mais c'est pas ça. Donc j'avais reçu une lettre pleine de vent, qu'heureusement je savais comprendre parce que j'ai passé plusieurs années à me faire souffler dans les bronches. Alors évidemment, ça ouvre la porte à toutes sortes de missives, dont celle-ci. Ce qui veut dire, ô cher et brillant chroniqueur, je sais pas pourquoi à chaque fois tant que la trime, enfin bon bref, rendez-vous aux ondes. Et les ondes, c'est le nom du bar au pied de la maison de la radio. J'entre et je commande un Bloody Mary, tomate, vodka et nitroglycérine, l'équivalent d'un Guillaume Maurice à un congrès de bonnes sœurs, une jouissance contre nature pour les deux parties. Et soudain, je me sens flotter dans de la vapeur, tout disparaît autour de moi dans une sorte de brouillard. Apparaît alors un type immense, totalement nu, une barbe énorme parsemée de fleurs et de petits animaux, des tresses de cheveux qui descendent jusqu'aux fesses et une énorme chaîne en or, genre rappeur gangsta, à laquelle sont accrochées quatre lettres, D-I-E-U, D-I-E-U. Bon. Derrière lui, une femme, lunettes noires, veste en cuir, pantalon moulant, en sky rouge, pas mal la meuf. Elle s'assoit en face de moi, dites-moi, c'est quoi ce bazar avec la PMA? Je dis comment? À la PMA? Eh oui. Il y a deux femmes dans votre gouvernement là qui ont déclaré que la PMA pour tous et pour toutes c'était fait. Et j'ai lu que le ministre de l'Intérieur, la Colon, les démentait. Alors je vais vous dire un truc. Elle enlève ses lunettes, elle défait son blouson, elle porte une sorte de toge en dessous et elle continue. Elle me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. Moi, la PMA, c'est mon truc. On peut même dire que c'est moi qui l'ai inventé, la PMA. Et je peux vous dire que c'est une bénédiction. C'est bien un truc de mec, ça, d'être contre la PMA. Moi, franchement, sinon, j'aurais laissé tomber. Des jours, des nuits à faire la bête à deux dos et rien. J'en avais le dos cassé, moi. Et toujours rien. Pas moyen de mettre le petit Jésus dans la crèche. Alors, j'ai été voir le barbu. Et il m'a parlé d'un truc, l'Immaculée Conception. Je lui ai dit, mec, je ne veux pas d'un truc contre nature, moi, no way. Et une copine, à ce moment-là, m'a parlé de la PMA, soulagement général. J'ai fait ça ni une ni deux, et hop, mon mec a toujours pensé qu'il avait piqué l'ail dans le gigot, et boum, deux mois après, alléluia, j'accouchais. Cette histoire qu'elle me raconte me fait penser à quelque chose, mais quoi, j'y arrive pas. Elle se lève, remet ses lunettes noires et goûte mon Bloody Mary. Ah, au fait, je voulais vous dire, mon nom est... Pardon ? Mais elle est déjà repartie. À ce moment-là, le barbu m'attrape par le col. J'espère que t'as compris le message, mec. Sinon, ça va être aussi bloody que ton cocktail. j'ai le temps de lire le tatouage sur son avant-bras. « Ah, maman !» J'ai envie de lui demander si lui aussi est né grâce à une PMA, mais il est déjà parti en chantonnant. La pour tous. La PMA pour tous. La PMA pour tous.
Hippolyte Girardot. Merci, Pauline. C'est un scénar de court-métrage, ça.
Oui, en fait, c'est une apparition. Vous savez, c'est Monty Python. Ça arrive, tout arrive en même temps.
C'est un scénar de court-métrage, on est d'accord.
Qu'est-ce que vous avez pris à La Rochelle?
J'ai pris une leçon.
Vous étiez au Festival de Fiction, hein, c'est pour ça que vous étiez à La Rochelle. On salue les Rochelais à 17h32 sur France Inter, en compagnie de Nicole Calfan, qu'on peut voir sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin, dans Le Tartuffe, mise en scène de Michel Faux, avec Michel Faux et avec Michel Bouquet. On va en reparler tout à l'heure avec Juliette Arnaud. Et en attendant, un petit François and the Atlas Mountain.
Ah bah évidemment.
Qui chante Apocalypse à Ipsos.
Je veux voir mon père au sommet d'une montagne libre. Je veux voir ma mère sous le soleil de juillet, radieuse, et toutes les craintes, toutes les angoisses évanouies. Je veux voir mon frère, ma soeur d'un autre pays. Viens chez toi sans peur, viens t'installer ici, faire une famille. Et tout ce qui, lorsqu'ils parlent, médisent, crachent des grenouilles, mourront de trouille, tant la rumeur, ils grossissent leur fait peur, ils vont périr, et nous de rire. Je veux voir, voir, voir. Sauvage et invincible. Je veux voir la France débarrassée de tous les irascibles, de tout ce qui, lorsqu'ils parlent, médisent, crachent des grenouilles, mourront de trouille, tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur, ils vont périr.
France Inter par Jupiter, Nicole Calfon est avec nous et dans Le Tartuffe, au théâtre de la Porte Saint-Martin, les costumes sont de...
Christian Lacroix.
Oh, dites donc. Et alors, il est comment le vôtre, par exemple?
J'en ai deux.
Alors,
moi, je suis la seule qui ait deux costumes, parce que moi, Michel Faux, il m'aime, vous comprenez?
Ah, voilà.
Donc, voilà. J'ai deux costumes, ils sont somptueux, même à la Comédie Française, où on était gâtés sur le plan des costumes. Je me souviens d'un Ruy Blas, que je n'ai pas créé, hein, que j'ai repris, de Raymond Rouleau. Les costumes étaient sublimes. Mais là, c'est incroyable, c'est d'un luxe, tout est fait sur mesure, les chaussures, tout est reperlé, tout est...
Étincelant. Vous êtes bien dedans.
Bien dedans. Quand on a un corset, on ne peut pas dire qu'on soit bien dans un corset, mais on s'y fait.
Faut
mais on est porté par les costumes et c'est pas les... C'est... on ne porte pas les costumes. On... Vous avez compris ce que je voulais dire?
Oui, j'ai bien compris. Voilà. Enfin, moi, je veux dire qu'on a entendu la playlist, mais moi, il y a un rôle dans, dans lequel je vous préférais. C'était...
Même le vent.
Excusez-moi, excusez-moi. Je toque un peu, mais on ne passe pas des belles chansons.
Voilà.
Alors, je me permets un peu.
Elle a joué dans Borsalino, oh là là. Elle a interprété, elle a joué dans Ruy Blas, mais on a retenu
ans,
les voilà, grandes marées.
J'étais, voilà, j'étais
il, est... Il est 17h37 à Paris et il est 11h37 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, pour lesquels on a une pensée. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de Guillaume Meurice.
Une grande pensée.
Oui. Camarades, c'est la révolution, ça y est. On y est, enfin on y est, attendez, vous enflammez quand même peut-être pas, il reste quelques petits détails à régler, c'est la gauche française, hein. Donc si ça marchait, on n'aurait pas Kennedy Discount à la tête du pays. Alors, comme moi, vous savez, j'ai l'habitude de prendre un petit peu les choses en main dans ce pays, je vais m'occuper de la révolution personnellement, j'ai organisé un petit peu tout ça hier, j'étais à la fête de l'humain évidemment, et j'ai rencontré des révolutionnaires.
Bon alors, la révolution, comment on fait monsieur?
On se met en colère.
Ouais, bah déjà, faut avoir de la voix, là, c'est niqué pour vous, non?
Mais je t'emmerde.
Ouais, bon, alors, c'est sûr que... Non, mais il a pas tort, il a pas tort. Je sais pas si je suis le mec le plus fédérateur. Remarque, la gauche n'a pas besoin de moi hein, pour se diviser, elle y arrive très bien toute seule. N'est-ce pas, monsieur le militant communiste?
Moi, je suis communiste, mais pas direction du parti communiste, qui est pas très à gauche.
Elle est à droite?
Elle est pas révolutionnaire, surtout.
Ah merde. Ouais, donc vous êtes à gauche, quand même, de la direction du parti communiste.
C'est pas dur.
Ouais, c'est pas dur. Alors attendez, non mais attendez, attendez, parce que si ça commence comme ça, on sait bien que Pierre Laurent, c'est pas Simon Bolivar, on sait bien qu'il est plus Zavata que Zapata, ça va. Mais merde, non, on fait la révolution, là, il faut être unis. Alors je suis allé voir une autre mouvance de la gauche, c'est les trotskistes. Alors eux, ils ont l'habitude de fédérer, hein, depuis la révolution d'octobre, et ils vendent un journal qui s'appelle Le Bolchevique. Qu'est-ce qu'on trouve dans le journal?
Dans notre journal, on a un article qui fait une polémique contre la brochure du PCF, qui elle explique que Staline... est un continuateur de Lénine.
Ça veut dire que vous êtes un bolchevique contre les communistes?
Pour nous, c'est une organisation, un parti ouvrier bourgeois, c'est-à-dire que si la base est vraiment ouvrière, ils ont une direction qui, elle, cherche à gérer le système capitaliste.
Oh bah merde, c'est des capitalistes, maintenant les communistes, putain, c'est un parti ouvrier bourgeois. Je pensais être à la fête de l'humain, je me retrouve au MEDEF, qu'est-ce qui se passe? Il y a Muriel Pénicaud en live sur la grande scène, c'est quoi? Elle fait chanter les ouvriers? Bon, ça, elle a l'habitude, remarque. Mais bon, ça pue un peu quand même pour ma révolution. Alors, c'est pas grave, hein, je persévère, j'ai continué avec une militante cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle pense des trotskistes?
Ouais, mais les trotskistes, ils sont vraiment à gauche. Mais moi, je suis à gauche.
Et vous quoi?
À gauche.
Oui, mais par rapport au trotskisme, alors du coup?
Je sais pas. À droite.
Oh la vache. Ah non, mais c'est compliqué. Mais oui, parce que tout est relatif, forcément. À ce moment-là, Dominique Seux aussi, il est à droite du trotskisme, si on va par là. Ça veut plus rien dire. Bon, c'est pas gagné pour l'Union, mais c'est pas grave. J'ai essayé d'y voir plus clair. Quelle est la différence entre l'anarcho-syndicalisme et le communisme libertaire?
Mais narco de narcolepsie ou...
Non, on n'est pas là pour faire des calembours, les mecs. Non, je vous parle de révolution. C'est quoi la prochaine étape? La turlute finale? Non, soyons sérieux. Il me fallait un ancien, un communiste qui connaît le parti depuis longtemps. Est-ce qu'il est trotskiste?
Non, pas du tout.
Pas du tout trotskiste?
Je pense évidemment que Mélenchon est un trotskiste. Ça.
C'est quoi la différence entre un léniniste et un trotskiste, par exemple?
Léniniste, un marxiste-léniniste, c'est un homme qui veut donner le pouvoir au peuple.
Et un trotskiste, alors c'est quoi?
Un trotskiste, c'est un peu le genre de Staline, la dictature sur le prolétariat.
Ah oui, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Alors les trotskistes, tout à l'heure, ils m'ont pas dit que c'était ça.
Oh oui, mais ça, ils se l'imaginent.
Ah oui, c'est compliqué hein, quand même. Hein.
Oui, mais ça, c'est pour être compliqué, c'est compliqué.
Oh putain, il faut un bac plus 6 en Che Guevarisme, quoi. Si même les anciens disent que c'est compliqué. Bon, alors lui, pour résumer, il aime pas Mélenchon. Mais, parce qu'il y a un mais, évidemment, hein, c'est la gauche française, je vous rappelle. Sinon, ça serait trop simple.
Il y a même des communistes qui ont voté, évidemment, quand même, pour les détruire. Ça, c'est évident.
Vous, est-ce que vous l'avez fait?
Non, pas du tout.
Mais pourtant,
j'ai, j'ai voté évidemment Mélenchon.
Ah ben voilà, ben alors.
Mais j'ai pas voté pour les Insoumis.
Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas. Bon, il me restait un seul espoir. La nouvelle génération, elle était là. Un jeune, qu'est-ce qu'il faisait là?
Bah moi, je fais la fête avec mes copains et je fais que des bêtises.
Est-ce que t'es de gauche?
Non.
Oh là là, alors le haut de la fin, c'est la maman. C'est la maman qui était juste derrière, qui d'un coup est devenue toute rouge. Alors, rouge bolchevique, trotskiste, robéruiste, je vais pas relancer un débat. Je crois surtout que le vrai pouvoir actuel n'a rien à craindre tant que tout le monde continuera à gueuler tous ensemble, chacun dans son coin.
Merci Guillaume Meurice. On comprend mieux comment ça se passe. Hein.
On comprend mieux pourquoi on comprend pas.
Ouais, on comprend mieux pourquoi.
C'est-à-dire que je pense qu'on va finir par décider de ne plus rien comprendre et de s'arrêter à essayer de comprendre. C'est je crois qu'il faut se résoudre.
Je pense qu'il nous encourage à ça. Hein, voilà. Quand le 0,1% se bat avec le 0,07%, on ne peut plus s'en sortir. Ouais. Effectivement. Nicole Calfon est avec nous. Avec Juliette Arnaud, on va revenir sur l'œuvre de Molière, sur le Tartuffe. On va aborder ce deuxième sujet avant. Si vous en avez ras la casquette de la publicité à la radio, au cinéma ou avant les vidéos sur Internet, vous serez ravis d'apprendre que l'écran pub arrive au théâtre. 17 théâtre privé, il voit une opportunité de financement. Oh, allez, arrêtez, non, la pub, ça fait aussi travailler les jeunes intermittents. Hein. N'oubliez pas.
Vous pensez que je vais vous parler de théâtre ou de spectacle? Pas du tout. Je vais vous parler de vous. Ça fait un certain temps que je vous observe. Je vois bien que vous entendez de moins en moins. C'est gênant. Il y a pourtant des solutions efficaces pour mieux entendre. Allez chez Audica, vous informez sur leurs aides auditives numériques. Elles sont minuscules, se glissent au creux de l'oreille. Personne ne se doutera de rien. Avec Audica, une meilleure audition change vraiment la vie. Et vous pourrez venir au théâtre m'entendre, si vous le souhaitez.
D'accord. Justement, au moment où on retrouve cette publicité, il y a un communiqué de presse qui explique que Tut, la marque qu'on vient de citer trois fois, devient mécène de la Comédie française. Mais parce que Louis est le plus beau des sondages. Oui, bien sûr, je vous le montre, là, je l'ai en main.
Je n'ai pas lu l'article que vous m'avez passé. Non,
vous inquiétez pas, vous inquiétez pas.
Vous avez bien bossé les sujets, Nicolas.
On va partir en freestyle. Donc, ce serait 2 minutes. Donc, c'est à partir de novembre, dans 17 théâtres, dont 12, la tête de Juliette Arnaud qui est dépitée. Donc un écran avec 4 minutes de publicité, dont 2 qui sont de promotion des spectacles des salles concernées quand même. Hein. Tout n'est pas acheté. Nicole Calfon, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous perturbe?
Je vous écoute attentivement.
Ça s'améliore.
Alors, qu'il y ait des pubs pour les parfums, les crèmes, les déodorants, je trouve ça épouvantable. Mm-hmm. Mais nul, scandaleux. Quoi, quand j'étais petite, j'aimais bien les pubs au cinéma, même c'est fini. Mais en revanche, qu'il y ait des pubs pour des spectacles qui sont de qualité et qui ont du mal et qui sont dans des petites salles ou qui sont un peu, vous voyez, pas tout à fait dans Paris, un peu machin. Oui, mille fois oui.
Ouais. Mais vous savez bien que c'est pas ça que ça va être.
Non. Mais moi, je rêve.
Mais ce qui serait peut-être bien, c'est d'obliger du coup les salles à le faire.
Voilà, mais ça, ce serait formidable. Mais évidemment qu'il y ait des pubs sur les Esquimaux, les machins, les trucs ou les crèmes de beauté, je trouve ça mais épouvantable.
Alors la régie publicitaire...
Et dont les théâtres qui ont du mal et qui sont formidables.
La régie publicitaire a ciblé le public des théâtres, parisiens en tout cas, urbain et aisé, attentif et disponible, avec un fort taux de mémorisation. Et donc comme c'est un type de public qui n'est pas facile à débusquer, il fait rêver les annonceurs de luxe, d'où les pubs pour les bijoux, les voitures, les parfums. Alors, autre question, on fait quoi le jour où ça arrive? Est-ce qu'on propose à tous les spectateurs de siffler les pubs?
Ah oui.
On fait ça?
Ah oui.
Je pense que ça va arriver en tout cas.
Oui. Allez, Alex, il est un peu emmerdé, je pense, parce qu'il va jouer dans
un théâtre. J'ai aucune idée si la pépinière va le faire. Mais la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous refuseriez de jouer dans ces conditions-là? Ou est-ce que, après tout.
J'ai cru que vous alliez me demander si je refuserais de faire une pub pour.
Ah, pour Audica?
Je déciderai jamais toute seule, puisqu'on est une troupe, on est 11. Profitons-en pour refaire des votes.
Oui.
Voilà.
Mais peut-être encourager le public à siffler la pub de façon
d'accord.
régulière.
Je suis d'accord.
Et puis après, hop, quand c'est la pub, l'auto-promo pour le théâtre, on regarde, on est attentif.
Mais l'histoire est très compliquée parce qu'en fait, le théâtre est proprement déficitaire en permanence, sauf sur certains spectacles qui sont des spectacles qu'on pourrait très bien voir à la télévision et pas spécialement au théâtre. Donc c'est très compliqué en fait, de pouvoir juger sur pièce comme ça sans avoir vraiment les chiffres.
Il y a d'autres moyens de financement.
Quels sont les quotas, par exemple? C'est bien, effectivement, sur un certain nombre de pubs, d'avoir des quotas pour défendre certains spectacles, mais lesquels seraient défendus, qui déciderait? C'est extrêmement complexe. Hein. C'est un gros sujet.
Bah, surtout qu'on peut supposer que les pages de pub, elles seront dans les théâtres les plus rentables.
Normalement,
Bah oui.
Mais je pense, par exemple, la Comédie française y échappera.
Oui,
Alors c'est un service public, normalement, non? Un petit peu.
De toute façon, on a trouvé un mécène hein, en la marque d'appareil auditif TUT.
Ouais.
Et oui, voilà. Bernard Murat s'exprime là-dessus dans la presse. Hein, le propriétaire du théâtre Édouard VII et metteur en scène, il dit c'est l'expression d'un désarroi. Ouais, genre, on en est là, quoi.
Non, c'est tout à fait vrai.
Il a raison.
Il a tout à fait raison, bien sûr.
Là où sur Internet, ça vous permet de consommer gratuitement, ce serait peut-être pas mal que ça puisse avoir une influence sur le prix des places de théâtre. Mais je pense bien que c'est pas vers la gratuité.
Parce que le prix de la pub se retrouve dans les produits qu'on achète. Donc, c'est jamais gratuit.
Bien entendu. Mais vous pouvez consommer la vidéo.
Je serais pas trotskiste.
Mais alors, je trouve, ça désacralise le théâtre.
On est d'accord. Ouais.
Déjà, l'idée de faire entrer un écran, si c'est pas au service de la mise en scène, c'est voilà. Revenons au grand théâtre, au grand et beau théâtre, aux grandes œuvres.
Revenons
exactement
à l'art
avec Juliette Armanet.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est étrange ce que ça nous fait l'art. Sacha Guitry disait que lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. Alors que Woody Allen, quand il écoute Wagner, il est saisi d'une envie d'envahir la Pologne. Hein, voyez ? Pas le même effet. Quand tu sors du Tartuffe, tu es empli d'un sentiment de malaise. Et pourtant, elle finit bien, cette pièce. Orgon et sa famille sont libérés de l'influence maléfique de Tartuffe, le faux dévot.
Faut pas spoiler la pièce.
Non, non, c'est intéressant.
Tu as été au lycée, Guillaume.
Parlez moi, j'adore.
Donc, je disais donc que cette pièce finit bien, puisqu'Orgon et sa famille sont libérés de l'influence maléfique de Tartuffe. Tout le monde le sait, Guillaume. Le faux dévot est vrai imposteur délinquant. Il est puni parce que toujours les méchants sont punis. On devrait donc remonter les grands boulevards, comme moi, vendredi soir, le pas soulagé et sautillant, sauf que pas, on se traîne. Un sentiment diffus dans les tripes, un truc qui ressemble à de l'effroi. Et puis, on garde des questions auxquelles Molière ne répond pas, finalement, et j'ai l'impression que c'est délibérément. Mais reprenons au commencement, en 1664. Molière veut donner à voir les hypocrites, et je le cite, qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité sophistiquée. Alors, qu'est-ce qu'il fait Molière? Il écrit une pièce avec un faux dévot, Tartuffe, un renard qui a bien pigé que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, comme le raconte La Fontaine sensiblement à la même époque. Tartuffe tient donc sous son influence Orgon, et vu qu'Orgon est le chef de famille dans un système patriarcal absolu, Tartuffe contrôle toute la famille et se prépare à épouser la fille, à capter l'héritage du fils et à coucher avec la mère qui kill. Molière et sa troupe jouent le Tartuffe, ainsi écrit, devant le roi, qui lui dit, le roi à Molière, « Oui, mais alors non, ça m'arrange pas ton affaire, rapport à la querelle entre jansénistes et jésuites. Alors je, en tant que Louis XIV, donc la France, donc la fille aînée de l'église, te prie de la remettre dans ta culotte, ta pièce et de ripper tes galoches, merci, bisous, merci. » Sauf que Molière a écouté Descartes et qu'il est sensible à tout ça et qu'il sait qu'il tient un sujet essentiel. Alors son Tartuffe, il le ressort de sa culotte, il le change un peu, le trafique et le repropose au roi qui lui indique de rechef d'aller plutôt tailler ses rosiers. Et Molière fait mine de céder mais revient avec une troisième version qui est celle que nous connaissons tous. Tartuffe, entre-temps, est devenu laïque et à la fin, au cinquième acte, Deus ex machina, le roi, enfin son envoyé, enfin c'est pareil, sauve l'affaire et confond Tartuffe. Cette petite plaisanterie aura quand même duré 5 ans, vous dire l'opiniâtreté de Molière et sa capacité de ruse. Parce que l'acte 5 a certes satisfait le roi, mais en vérité, ça n'abuse, et cela n'abuse personne, d'où le sentiment de malaise à la fin. C'est bien Tartuffe qui gagne, qui triomphe. Ce personnage qui met 2 actes à arriver, génie de Molière, que les autres racontent et qui ne dévoile jamais tout au long de la pièce ce qui l'anime, lui. Ce type qui est presque grotesque au début, il a l'air même patelin presque, le pauvre homme, comme n'arrête pas de lui dire Orgon, et qui, imparable mise en scène de Michel Faux, soudain, par la grâce d'une parure rouge sang, d'une lumière inquiétante, d'un regard terrifiant, face publique, te colle un effroi abominable, indistinct, opaque et qui te rappelle bien des peurs bien de notre époque à nous. Alors certes, on ne voit plus de nos jours des jansénistes et des jésuites se foutre sur la gueule, même aux alentours de l'église Saint-Denis-Nicolas du Chardonnay. Et c'est dommage, rapport au divertissement que ça pourrait nous faire. Mais c'est pas comme si la question religieuse et du fanatisme était réglée. Hein, cela reviendrait à dire que la victoire de La Servante Écarlate et de Big Little Lies hier soir aux Emmy Awards, deux séries hautement féminines et féministes, prouvait que le combat féministe était gagné au point et que nous sommes des mauvaises joueuses, ta gueule, Finkel. Oui, cela reviendrait à dire ça. Et c'est pas vrai, c'est pas réglé. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci d'avoir chroniqué de la sorte.
Bravo. Le silence qui suit une chronique de Juliette Arnaud, c'est encore Juliette Arnaud.
Pourquoi ce mal-être? C'est ça qui est intéressant.
Parce qu'il gagne. Parce que je crois que ce qu'a vraiment écrit Molière, c'est que Tartuffe gagne. Que malgré l'intelligence de Dorine, malgré l'intelligence d'Elmire, il est rompu. Et le fanatisme, ça marche très très bien en fait. Et qu'Orgon est un faible, que son fils est un violent,
et qui s'en sortent pas. Et c'est pour ça qu'on sort, on n'est pas bien.
Ouais, c'est ça.
Ah, Nicole Calfan est Elmire, le Tartuffe c'est Michel Faux, Orgon, Michel Bouquet, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Si vous avez la chance de venir à Paris ou d'aller voir, c'est chaudement recommandé. C'est même un événement, l'événement de la rentrée, peut-on dire. Nicole Calfan, on va aborder ce troisième sujet avec vous.
Ah, troisièmement réjoui.
Ah, voilà. Alors, la Tour Eiffel. Eh oui. Troisième sujet, sobre, élégant, 1m75, aimant la radio, il repart entre amis. Troisième sujet, préfère être le dernier pour qu'on parle de lui le moins possible. Oui, ce dernier sujet, c'est le chasseur français dont les petites annonces ont toujours autant de succès malgré les sites de rencontres 2.0 qui génèrent beaucoup plus de déceptions à cause de ce genre de malentendus.
Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
J'adore. Jean Dujardin dans OSS 117. Ben c'est un article paru dans M, le magazine du Monde, et qui rappelle le succès incroyable des annonces dans Le Chasseur français, malgré le choix incroyable de sites, de rencontres, etc. On nous rappelle dans cet article que l'écriture manuscrite est obligatoire et qu'il existe toujours le frisson de la boîte aux lettres avec le Chasseur français.
Mais je suis complètement d'accord. Je vais m'inscrire aux chasseurs français.
Ah, attention, demain, là, ça va faire de la demande.
Écoutez, si jamais on vous répond pour moi, on donnera l'attaché de presse qui est là après. Mais j'adore ça. Pourquoi ? Parce que j'aime tellement l'écriture. Je veux dire, je suis au café, KF, j'en peux plus. MDR, mort de rire, j'en peux plus. LOL, ça va avec mes enfants. Mais, je veux dire, moi qui aime tellement les points virgules, les points d'exclamation, je suis ridicule dans mes SMS. Moi, il faut que j'utilise les points, les deux points. Donc, chasseur français, épistolaire, obligatoire. Bravo.
Et lettres manuscrites.
Donc déjà, vous pouvez essayer quelqu'un de branché. Vous faites analyser l'écriture du mec qui, à mon avis, déjà fera pas dingue. Déjà, ça vous enlève le bras gauche et les fous.
On envoie une photo, mais photo papier, hein, c'est ce qu'on explique
moi,
dans l'article.
Moi, je peux pas m'inscrire sur Internet. J'y pense, mais bon, je suis pas Elisabeth Taylor, mais on me connaît un peu. On tombe que sur des dingues. Moi, j'aurais peur de me retrouver ligotée dans un coffre de voiture. En revanche, j'ai 3-4 amis sublimes de tous les âges qui ont trouvé l'amour sur Internet.
Ah,
toutes
c'est vrai ?
Qui se sont mariées et qui ont des enfants.
Ah, ouais. Parce que c'est l'argument du chasseur français, de dire chez nous, c'est dans le but d'une relation longue, voire de se marier et d'avoir des enfants.
Mais ces copines-là, à leur premier rendez-vous, il y en a une que j'ai accompagnée, on se cachait derrière un pilier pour voir la tête du mec. On disait non, laisse tomber. Et voilà. Mais chasseur français, moi c'est mes parents qui me parlaient du chasseur français. Mais pourquoi pas ? On teste tout de suite l'intelligence quand même de la... Sauf si c'est Cyrano et qu'il l'a fait écrire. S'il a son Christian, Cyrano...
Après, ce sont des gens qui lisent des magazines de chasse et de pêche.
Ouais, mais il y a des promotions en plus sur les
valeurs
sangliers.
Regardez, chasser et pécho.
C'est vrai. Il y a aussi du jardinage, hein, sur la culture des hortensias.
Mais pour pécho et pour chasser, impeccable.
Effectivement, tout ça est très cohérent.
Il y a le temps de réponse, parce que c'est ça le truc, c'est qu'il faut attendre chaque fois 2 jours. Là où, avec Internet, on peut quand même aussi juger de l'intelligence de la personne, vu qu'elle va répondre dans la foulée.
J'y vais pas, j'ai peur.
Oh là là. C'est terriblement romantique.
Je vais vous inscrire sur Tinder.
Oui, alors oui.
Vous allez me remercier.
Avant ça, faites une proposition indécente à Nicole Calfan.
C'est drôle.
Nicole Calfan, elle dit qu'elle est où on ne l'attend pas. Eh bien, dans le sketch de fin d'émission, un rôle qu'on vous propose, que vous recevez, que vous n'avez pas travaillé, il arrive devant vous. Vous êtes Brigitte Macron avec Emmanuel Macron en Hippolyte Girardot qui reçoivent leur nouveau monsieur patrimoine, Stéphane Bern, qui est Guillaume Meurice. Comment s'est passé le premier entretien ?
Alors, je ne sais comment vous remercier, Majesté. J'en ai les rouflaquettes qui frisent.
Tu sais, mon ami Steph, tu peux m'appeler Emmanuel.
Et moi, Brigitte.
Je suis tellement heureux de vous voir confier une mission à titre bénévole. Je me sens un peu comme un cerf sous Jupiter.
Toi, au moins, tu n'es pas un feignant.
Bien dit, Brigitte.
C'est-à-dire que j'ai plus d'une corde à mon arc.
À mon arc.
Monarque, oui, c'est un jeu de mots.
On dit plusieurs cordes à mon arc.
Oh, Brigitte, laisse-le tranquille.
Enfin, j'étais quand même prof de français.
Hein. Ah bah, je sais, j'étais dans la classe.
Stéphane, Avez-vous déjà des idées du patrimoine en péril à sauver?
Oui, oh oui, en premier lieu, j'avais pensé à Édouard Balladur.
Parce que vous êtes drôle. C'est que vous êtes impayable.
Oui, j'ai déjà dit, je ne serai pas payé, je suis bénévole.
Sérieusement, t'as rien d'autre en vue?
Les APL, le code du travail.
Non, rassurez-moi Stéphane, vous blaguez, n'est-ce pas?
Évidemment. Vous êtes en marche, alors je vous fais marcher.
Ah, bah ça c'est excellent.
Ah. Oh, je n'ai jamais autant ri depuis la fois où j'ai dit que j'étais socialiste.
Mon petit Stéphane, vous êtes un ami.
Oui, à propos, si vous commenciez votre mission par une petite visite au Touquet.
Oh oui, j'adore le Pas-de-Calais.
C'est encore une blague, ça.
Oui, oui.
Manuel, venez donc faire un tour au Touquet.
Pardon, monseigneur, mais quel est le rapport avec ma mission?
Nous connaissons là-bas une résidence privée qui mériterait toute votre attention.
Je crois que je vous vois venir.
Je savais que tu ne nous décevrais pas.
J'ai moi-même acquis récemment un petit édifice dans l'Eure-et-Loire.
Chaque chose en son temps.
Le Touquet, d'abord.
À vos ordres, sire.
J'ai cru comprendre que vous tiendriez réunion à votre domicile.
C'est exact. La première portera sur la question suivante. Les frais de maquillage de mon bon roi entrent-ils dans le cadre de la rénovation du petit patrimoine en péril?
Pardon?
Blagounette, je ris, je me poile.
Merci Nicole Calfort dans Brigitte.
Il n'y a pas que Michel Faux qui a une bonne distribution. C'était parfait.
C'est vrai. Mais vous êtes surtout Elmire dans le Tartuffe.
Heureusement.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est jusqu'au 31 décembre, dans une mise en scène de Michel Faux, avec Michel Bouquet, Michel Faux, Juliette Carré, Christine Murillo, Justine Bachelet, Georges Becot, Bruno Blairet, Dimitri Viau, Aurélien Gabrielli et Alexandre Ruby, avec les costumes de Christian Lacroix.
Si vous n'êtes pas à Paris, relisez Tartuffe.
Emmanuel Chartres, décor sublime, sublime, et une lumière aussi exceptionnelle, je n'ai que le prénom de Joël en mémoire.
Eh bien, on salue Jojo.
Jojo.
Jojo. Merci Nicole Calfon. On se retrouve demain avec Simon Apkarian et voici le mot de la fin au président de la République. Qu'est-ce qu'il a pensé de cette émission?
Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.